Bon, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Alors, on va aller un peu plus doucement maintenant. Alors, quand même, je vais toucher un peu la sexualité. Et c'est sûr, comme Yves a dit, il y a plein de choses qu'il peut ajouter de ce qu'il a dit. Mais je veux juste dire que oui, je crois que Dieu a créé la sexualité comme quelque chose de pur. Il est créatif et c'est bon. Je veux revenir à ça, malgré que... On a vu que l'ennemi et notre propre chair, on a réussi de salir ça, mais Dieu veut nous purifier, il veut nous donner une autre vision de la sexualité, que c'est quelque chose qui est bon, qui vient de lui, qui est un don. Comme j'ai dit hier, c'est un don. Alors, j'ai commencé hier en disant, hier matin, ça semble loin, que beaucoup entre nous, on pense qu'on est quelqu'un parce qu'on a une copine, un copain. On pense qu'on est quelqu'un, on a de la valeur parce qu'on a eu les rapports sexuels. Mais ce matin, qu'est-ce qu'on a chanté? On a chanté une chanson, « Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. » Alors, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Vraiment, véritablement au cœur de nous-mêmes. C'est quoi notre identité principale? Enfants de Dieu. Hein? Nous sommes les enfants de Dieu. On est choisi, on est élu, on a un héritage, on est adopté par le Père. On a une richesse en lui. Alors, c'est très important de reconnaître qui nous sommes. Alors, on a besoin de la première diapositive. Et c'est bon de chanter, hein? C'est bon de rappeler, c'est bon de nous dire, de parler à nous-mêmes et déclarer la vérité de qui je suis et de reconnaître que vous avez beaucoup de valeur. Vous êtes précieux, vous êtes la prunelle dans les yeux de Dieu. Hein? Il vous regarde et il dit, « Wow, vous êtes mes bien-aimés. Vous êtes mes bien-aimés. » Et je sais c'est difficile d'approprier ça. Ça peut prendre longtemps. Que ça descend de notre tête dans nos cœurs. Mais je répète, vous êtes son bien-aimé. Vous êtes adopté, ses enfants. Alors, est-ce qu'on peut regarder ça? C'est 1 Jean 3, 6, je crois. Ça dit, et on chante ça aussi, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés l'enfant de Dieu. » Est-ce que vous avez déjà chanté ça? Hein? Quel témoin, hein? Quel privilège. Alors ici, on va lire, je vais demander Yves de lire ça en Galates 4, 4 à 7, et ensuite en Romains 8, 15, ça parle encore de cette idée que nous sommes les enfants adoptés.
Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu.
Tu n'es pas d'esclave, mais tu es fils. Et lorsque je dis fils, ça veut dire fille aussi, hein? Parce qu'on a parlé de l'épouse de Dieu, ça inclut les hommes. Alors ici, on va juste vous appeler les fils ce matin. Alors, vous n'êtes pas esclave. Est-ce qu'on peut regarder en Romains? Oh, voilà, on ne voit pas très bien. Est-ce qu'on peut juste regarder cette image pour le moment? Avant ça? Est-ce que vous voyez? Hein, peut-être pas. En tout cas, ça, c'est nous aussi. Nous sommes dans la main de notre Père. Il nous prend de... sur notre tête et il veut nous choyer, il nous chérit, il nous aime comme ça. Alors, garde cette image. Et en même temps, lorsqu'il parle que nous ne sommes pas esclaves, nous sommes adoptés, nous sommes ses fils, ses filles, c'est comme ça qu'il nous voit. Hein? Il nous voit adultes aussi, mais en même temps, on reste toujours pour lui ses enfants. Alors voilà, la prochaine en Romains. Bon, il faut que tu reviennes.
Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui.
Ça, c'est la vérité. Appropriez-le. Alors, vous n'êtes pas esclave. Vous n'êtes pas esclave. Vous êtes enfant de Dieu. Vous n'êtes pas orphelin. Tu n'es pas sans père. Je me souviens, une fois, j'ai marché dans la rue. J'étais toute seule, découragée, ma tête bas comme ça, et j'ai entendu dans mon esprit, « Catherine, pourquoi est-ce que tu agis comme un orphelin? Pourquoi tu agis comme ça, comme un esclave? Je suis ton père, regarde à moi, regarde à moi. » Alors, si on pense à l'esclavage, je sais qu'on peut avoir une image de l'esclavage terrible, et c'est terrible lorsqu'on pense à l'esclavage dans le sud des États-Unis, avec toute l'exploitation, la dénigration. Mais là, j'ai lu un peu sur l'esclavage dans le temps de l'Empire romain, et c'était un peu différent. Les esclaves, ils habitaient dans la maison de maître, et ils avaient une bonne éducation, et ils ont ensuite, souvent ils ont éduqué le fils et les filles, maintenant, je pense que c'est les fils, ils ont éduqué les fils du maître. Alors, à un certain niveau, ils étaient égaux. Je ne sais pas s'ils étaient maltraités ou non, mais au moins, ils avaient le droit de l'éducation et une place dans la maison. Alors, on peut dire peut-être qu'ils étaient égaux, le fils, lorsque le fils était enfant. Mais lorsque l'enfant a grandi, est devenu mature, c'est à ce moment-là que lui, il peut hériter une partie, en tout cas, ou tout l'héritage de son père. Tu sais, il était héritier. Et on peut dire qu'il était riche. Mais nous sommes riches. Hein? Mais est-ce qu'on approprie la richesse qu'on a en Christ? Alors, l'enfant est devenu adulte et maintenant, comme je dis, il est riche, il est libre. Il est libre, il peut partir. Il peut faire ce qu'il veut, il peut être indépendant. Mais je crois que quelqu'un qui agit vraiment comme un fils, il ne veut pas être indépendant de son père, de son famille, la famille. Ou le foyer, ou l'entreprise, complètement. Il ne veut pas être complètement dissocié. Il veut encore identifier avec sa famille, avec son père, avec l'entreprise. On peut parler aussi, pour nous, le royaume. Alors, je pense un peu, si on pense l'esclavage ou fils, un fils est un peu plus comme un propriétaire. Alors, il y a une différence entre un propriétaire et une gérante. Il y a une différence entre quelqu'un en général qui achète une maison, qui est propriétaire, ou que quelqu'un qui loue simplement une maison. Si on est propriétaire, on va prendre l'initiative. Hein? On va prendre responsabilité. On va prendre soin de notre entreprise, notre maison, le royaume. On va investir. Hein? On va donner de notre temps, de notre argent. C'est, il y a une attitude qui est différente. Notre vision a changé. C'est ça? On ne va pas juste faire le minimum. On va juste faire les choses. On ne va pas faire les choses par obligation. T'sais, on prend les choses à cœur. Et je pense aussi, si on agit vraiment en tant que fils ou de fille, notre motivation pour être dans la maison a changé aussi. On n'est pas motivé seulement de faire des choses par obligation, parce que c'est la loi, parce qu'on va gagner le salaire, t'sais, parce qu'on a peur. Je pense que si on agit comme fils et fille, et on connaît notre Père, on va agir et faire ces choses qu'il nous demande de faire par amour. C'est notre motivation, ça change, c'est différent. Alors, quelle image est-ce que vous avez de l'autorité de votre Père? Ça change aussi. Un fils a un respect pour son Père. Il voit son Père et il veut l'honorer. Et je sais, souvent, un esclave, il agit pas, je n'ai pas beaucoup de respect pour mon maître. Alors, c'est quoi qui vous motive? C'est quoi votre vision du royaume en tant que fils et fille de Dieu? C'est quoi votre motivation pour demeurer intègre et pur vis-à-vis de la sexualité? C'est quoi votre motivation de demeurer fidèle dans le mariage? C'est dépendre de notre image, notre vision. Est-ce que vous agir un peu plus comme les esclaves, ou comme les orphelins, ou comme les fils et les filles de Dieu? C'est une question que je vous pose ce matin. Alors, j'aimerais vous partager que la chose qui me motive le plus de continuer de marcher avec Dieu, dans la pureté, dans l'intégrité, de proclamer qui il est, c'est l'amour que j'ai pour Jésus et pour mon Père. Ce n'est pas la crainte, c'est l'amour que j'ai reçu et c'est l'amour que je veux donner aussi. Alors, Je me souviens à peu près, quelques années, j'étais très tentée en tant que femme mariée, pour ceux qui n'étaient pas là hier. Ça fait presque 30 ans que je suis mariée avec Yves. Je me mariais avec Yves. Mais j'étais mariée avant. Alors, j'avais des failles, en tout cas, les domaines de vulnérabilité dans ma vie. Et il y a quelques années, j'étais très tentée envers un homme marié dans mon entourage. Et ce n'est pas que je n'ai pas aimé Yves. J'étais encore en amour avec Yves. J'étais attirée, il comblait mes besoins, mais peut-être je cherchais quelque chose de nouvel. Alors, cette tentation était assez forte. Ce n'est pas juste une ou deux fois que ça est venu dans mon esprit. Ça a duré quelques mois où j'avais le désir de lancer tout pour aller avec quelqu'un d'autre que j'ai pensé pour combler mes besoins encore mieux que mon mari. Alors, si vous écoutez, alors si je pense que je dis c'est fou, est-ce qu'on va vendre notre droit de naissance pour un bol de lentilles? Est-ce qu'on va donner tout pour un peu de plaisir? Alors, c'était une illusion. C'est l'attirance que j'avais envers cette âme qui peut vraiment me combler mes besoins, c'était une illusion. Et constamment, j'avais besoin de tourner envers Dieu et dire, non, c'est toi qui es la source de la vie. C'est toi qui me dis qui je suis. C'est toi qui peux me combler. Mais souvent, c'était comme ça. Non, je pense que cette âme peut me combler. Alors, j'ai tourné plusieurs fois. Et c'est ça, la repentance. Et souvent, j'ai dit à Dieu, guéris, et c'est dit dans la parole, en Jérémie, qui va guérir notre infidélité. Et je dis, guéris mon infidélité. Seigneur, j'appelle à toi. Je ne veux pas être comme les hommes et les femmes en Israël. C'est qu'ils ont toujours Dieu à les aider, ils ont les bénis, puis ensuite, ils ont tourné envers d'autres dieux. Je ne voulais pas être comme j'étais autrefois. Alors, j'ai crié, j'ai parlé avec Yves, j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai parlé avec les personnes de rédivibilité. Et tout ça, ça m'a aidé. C'est essentiel. C'était essentiel. Mais la chose qui me tenue vraiment, c'est mon amour pour mon père. Le respect que j'ai pour mon père. C'est parce que lorsqu'on est dans la tentation, tout le bon sens, ça prend le bord. Hein? Ça fait pas de sens. Ça part, la sagesse. Et j'étais vraiment sur un nuage. Et la chose qui m'a soutenue, c'est l'amour de mon père. J'aime mon père. J'aimerais dire que c'est l'amour pour Yves. Oui, c'était là. Mais c'est l'amour de mon père. Et là, j'ai tombé encore plus en amour avec mon père et plus en amour avec Yves. Alors, amen, il peut ressusciter des flammes qui se sentent un peu comme brasées, là. Alors, il est bon. Il peut faire des grandes choses, je crois, dans nos vies. Alors, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Est-ce que vous êtes esclave? Est-ce que vous êtes fils? Est-ce que vous connaissez vraiment votre héritage? Et est-ce que tu as peur de perdre ton héritage? Alors, j'aimerais regarder un peu l'histoire de le fils prodigue avec vous ce matin. Vous avez la chance, j'espère, vous avez pris l'occasion de regarder un peu cette parabole que Jésus a racontée, que je trouve, en tout cas, il y a tellement de richesse dans cette parabole pour comprendre un peu plus. Je veux qu'on comprenne et saisir un peu plus le cœur du Père dans ça. C'est, on peut parler longuement des fils. Peut-être que vous pouvez identifier avec des fils. Mais quel est le cœur du Père pour ses enfants? Est-ce qu'on peut regarder à ça? Ça a l'air un peu sombre, mais ça, c'est une peinture qui était peinte par Rembrandt. J'ai entendu ou j'ai lu qu'il a peinturé ce tableau à la fin de sa vie. Et lui, il avait une vie très rock and roll. En tout cas, il avait beaucoup de femmes dans sa vie. Il avait beaucoup de deuil, de pertes aussi dans sa vie. Puis il a aussi peinturé et fait d'autres impressions ou interprétations de le fils prodigue. Et on voit dans ses peintes un peu plus avant qu'il n'avait pas la même image du père. Parce que je vois dans cette image, en tout cas, quelque chose qui est merveilleux avec le Père. Mais pour vous mettre dans le contexte encore, on sait que cette Père, il avait deux fils. Un fils qui a quitté la maison en rébellion. L'autre fils qui a quitté la maison en religiosité. Alors, cet fils-là, on sait qu'il a demandé son héritage. Il a parti, puis il a dépensé tout son argent dans l'immoralité sexuelle avec des prostituées dans un pays lointain. il a gaspillé vraiment son héritage. Et à un moment donné, il n'y avait rien. Et la parole nous dit qu'il est revenu à ses sens. Il a rentré en lui-même. Parce que des fois, on est hors de nous-mêmes, comme j'étais avec cet homme. Il est rentré en lui-même et il est revenu à la maison. En tout cas, il dit, je vais tenter de revenir à la maison. Je ne suis pas sûre comment mon père va me traiter. Je sais que je ne suis pas digne d'être un fils ou une fille. Peut-être il veut me prendre comme un serviteur, comme un esclave. Mais on sait dans l'histoire, puis on voit aussi dans cette peinture qui était interprétée par Embrun, que le père, il a accueilli son fils. Il a sorti de la maison en courant. Hey, on peut penser d'un noble, un homme comme ça qui a haussé ses vêtements. Elle est courue envers son fils. Puis il dit, rentre dans la maison. Mon fils qui était mort, maintenant il est vivant. Alors il y avait une joie, il y avait une réjouissance. Et j'attends pour mes enfants qui reviennent à la maison. Je suis toujours là avec attente, même si deux de nos enfants ne marchent pas avec Dieu. Et on voit que cette père, il a tellement, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, je vois tellement de tendresse dans cette image. Et le père qui est courbé, qui est penché envers son fils, qui amène son fils vers son cœur. Et Rembrandt, il a imagé, il a vu le père un peu vieux. On peut dire, pourquoi il est vieux? Et je pense qu'il veut démontrer la vulnérabilité. Le père était vulnérable envers son fils. Et on voit, il était presque aveugle aussi. Il y a une tendresse qui est là. Il a mis beaucoup d'accent sur le manteau du père. Tu vois, c'est rouge. Et c'est un peu comme, très flagrant, c'est un peu comme un père, comme un oiseau. Un oiseau qui couvre son fils, comme on voit dans la parole que Dieu nous couvre avec ses ailes. Alors, quelle image, hein? Je ne sais pas pour vous, mais ça me touche. Et est-ce que vous pouvez voir de où vous êtes des mains du Père? Peut-être que c'est difficile, mais regardez les mains de cet Père. Je vais juste vous dire qu'il y a une différence dans les mains, si vous regardez très... Un main, ce main-là est plus féminine. C'est plus délicat. Hein? Et on voit un peu qu'ils mettent la main, cette main sur l'épaule de son fils et c'est très doux. C'est douce. Hein? C'est doux. Alors, pour moi, c'est un peu le côté féminin de Dieu. On a parlé de ça hier. C'est l'aspect que Dieu veut nous transmettre son affection, son amour sans condition. Et on voit l'autre main, c'est un peu plus masculine. Hein? C'est plus fort et c'est plus ferme. On voit, lorsqu'il a mis sa main sur l'épaule de son fils, c'est plus ferme. C'est le Père qui vient pour nous affermir. Et je crois qu'on a besoin des deux. Ça montre pour moi un Père qui est aussi un cœur d'une mère. Et c'est ça son cœur envers nous. Je veux juste... Bien, on peut aussi regarder la position du fils, et peut-être c'est ça qu'on a besoin d'avoir aussi, cette position d'humilité devant notre père. Mais je ne vois pas que sa tête est bas dans cette image, le fils. Sa tête est contre le cœur de son père, contre son poitrine, en train, c'est proche de le cœur du père. Et je pense que c'est ça une position que nous, on peut prendre. Regarde en comparaison l'image de le fils aîné. C'est intéressant, mais il est habillé, de la même manière que son père. Hein? Il est riche, il a toute l'apparence du père, il est dans la maison, mais quelque part, il n'a pas compris le cœur du père. Il est devenu, il a travaillé comme un serviteur, il n'a pas connu l'amour de son père, il n'a pas saisi, il n'a pas approprié. Mais si tu vois dans les Écritures, le Père a dit à son fils, « Tu sais, mon fils, tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. » Mais c'est approprié. Viens dans la maison maintenant. Viens célébrer avec ton fils, ton frère qui était mort. Alors, je prie pour vous. C'est ça, j'espère, en lisant cette Écriture, en méditant sur ça, que vous pouvez saisir encore l'amour du Père pour vous. et que vous pouvez rentrer dans la maison. Si vous êtes, on peut être dans la maison, à l'église, toute notre vie. Et être comme une prodigue, un fils ou une fille prodigue. Hein? Là, mais on n'est pas là. Ou comme le fils très religieux, le fils aîné très religieux, on fait les affaires, on fait la règle de la, on suit la lettre de la loi, mais pas l'esprit. Hein? On ne connaît pas le cœur de notre Père. Et c'est ça que je prie pour vous, que vous pouvez être motivés de continuer avec lui, de marcher dans l'intégrité, la fidélité, la pureté, par l'amour du Père qui est là pour tout, pour toi, pour vous. Ça, c'est, moi, j'aime plus parler de ça. Hein? J'aime parler de la sexualité, j'aime parler de le brisement, mais c'est sûr, j'aime tellement parler de l'amour du Père. Parce que je crois que le Père nous aime avec un amour qui est infaillible. Hein? Ça continuait. On a parlé de l'amour agapé hier, l'amour agapé, parce que dans le grec, il y a quatre mots pour l'amour. Agapé, philio, storgé et eros. Dieu nous aime avec un amour agapé. Ça dit ça dans la parole Jean 3,16, ce verset fameux, bien connu, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, que Dieu a tant agapé le monde, qu'il a donné. Et l'amour agapé donne. L'amour agapé fait les sacrifices. L'amour agapé est divin. Et c'est sans condition. Ça donne. C'est impartiel. C'est là, c'est parfait, c'est éternel. Mais en même temps, l'amour agapé est démontré. C'est pas abstrait. C'est démontré. Mais la chose aussi qui m'excite et qui m'encourage, c'est Dieu, la Père aussi, nous aime avec un amour filial. L'amour, ça veut dire une affection, une affinité naturelle. En anglais, on dit « like ». En tout cas, en anglais, les deux mots pour… on peut dire « I like someone », j'aime, bien, ou j'aime. Et moi, ça me donne l'impression que Dieu nous aime bien aussi, qui veut passer du temps avec nous, qui nous aime avec un amour fraternel aussi. Il veut être notre ami. Alors, on voit ça en Jean 16, 27. Car le Père lui-même vous aime. Car le Père lui-même vous filio. Parce que vous m'avez aimé, c'est Jésus qui parle. Alors, le Père nous-mêmes, il nous aime directement, parce qu'on a aimé Jésus. Est-ce que vous êtes capable de le saisir? Moi, je crois que le Père, il nous poursuit. Il vient après nous. Hein? Il nous tire avec les cordages d'amour. C'est lui qui veut nous conquérir, hein, notre cœur, dans le bon sens qu'on a parlé. C'est lui qui court après nous, je crois, qui nous a aimés en première. Et c'est quelque chose que je trouve qui est profonde. Et seulement, qu'est-ce qu'il veut? C'est qu'on réponde à son amour divin. Lui qui prend l'initiative, il veut qu'on réponde. Et l'autre chose que j'aime de l'amour du Père, c'est qu'il nous connaît. Il nous connaît intimement. Chaque cheveu sur notre tête, il connaît. Il compte les cheveux sur notre tête. Dans le Psaume 139, ça dit ça. Et ça, c'est une somme que je lis sur moi-même souvent. Lorsque je doute de mon identité, lorsque je doute de ma valeur, Dieu, est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce que tu me connais? Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètes toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, te le connais entièrement. Tu me entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Même avant que je dise un mot, il le connaît. Il me connaît intimement et il m'aime encore. Est-ce que quelqu'un a déjà dit « je t'aime » et tu as dit « mais tu ne me connais pas ». Si tu me connais vraiment, tu ne vas pas m'aimer. Hein? Mais Dieu dit « oui, je te connais et je t'aime encore ». Et encore. Ça, c'est quelque chose qui me dépasse. Mais moi, je crois fortement que si vous n'êtes pas sécurisé dans l'amour du Père. Si vous ne connaissez pas vraiment votre valeur en Christ, vous allez toujours un peu en doute, vous serez peut-être agité et pas être capable d'aimer pleinement. Je pense qu'on est capable d'aimer pleinement lorsqu'on est sécurisé premièrement dans son amour. Je pense que c'est Saint Augustin, j'essaie de traduire, qui dit « On est agité jusqu'on retrouve notre repos en Dieu. » We are restless until we find our rest in God. On est agité jusqu'on retrouve notre repos en Dieu. Lorsqu'on retrouve cet repos, lorsqu'on demeure en lui, on est plus capable d'aimer. Et je sais que ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on ne peut pas recevoir l'amour de Dieu. Une peut être simplement notre image de notre Père terrestre. Oui? On voit, on a une mauvaise relation avec notre Père terrestre et maintenant on projette ça sur notre Père céleste. Oh, ça peut être la même chose avec notre mère. Il y a plein de choses qui viennent et qui nous empêchent de vraiment recevoir l'amour du Père. Et c'est pour ça aussi, souvent, je prie avec des personnes pour qu'ils puissent enlever ces obstacles, en fait, que ça coule. Hein? Alors, j'aimerais vous montrer une petite image. J'ai besoin de l'aide de Yves. Pour moi, ça montre un peu encore l'intention de Dieu, l'amour de Dieu pour nous. Et moi, cette tasse est un peu comme notre âme, un peu comme notre cœur. Et je crois que Dieu nous a créés avec un cœur pour être rempli de son amour, qu'on peut contenir son amour, qu'on peut recevoir et contenir son amour. Alors, pour moi, cette eau, ça représente les eaux vives de Dieu. Tu sais que Dieu, il coule, tu sais, il veut nous donner les eaux vives, sa présence, son amour. Et c'est là, ici, ce matin, je me sens ces eaux vives. Est-ce que vous pouvez voir, tout le monde? C'est Dieu qui coule, ses bénédictions, c'est bon, merci. Son amour, sa grâce, sa plénitude, il coule ça dans nos cœurs. Et je pense que son plan, son idée, c'est que on soit rempli, qu'on continue et se déborde. Hein? Se déborde dans toutes les bonnes directions. Vous savez qu'on aime les unes les autres avec pas nos réserves. Combien d'entre vous sentent que cette tasse, est, je ne sais pas si c'est moitié plein ou moitié vide, mais combien de vous essayez de donner l'amour envers les autres, mais tu donnes à partir de vos réserves, hein? Pas à partir de votre plénitude. Vous n'êtes pas rempli de son amour, vous essayez de vos propres forces d'aimer les autres personnes. Mais je crois qu'il veut qu'on déborde de son amour. Mais la façon que je vois nos cœurs, c'est pas comme ça pour beaucoup d'entre nous. C'est pas solide. On n'est pas capable de contenir l'amour. Nos cœurs sont un peu plus comme ça. Dieu, il verse son amour, il coule de ses eaux vives dans nos cœurs. Et qu'est-ce qui se passe? Ça coule, mais ça coule de partout. Et pourquoi? Je ne sais pas si vous voyez, c'est difficile, mais dans cette tasse, il y a toutes sortes de trous, oui? Toutes sortes de lésions. Alors, pour moi, ça représente nos blessures, les mensonges qu'on croit. Tu sais, on a parlé de ça un petit peu hier. Les carences affectives, notre mauvaise image du Père, nos péchés sexuels, toutes les choses. Oui? Ça vient et c'est... Lorsque Dieu veut, et puis c'est comme un blocage, un obstacle, lorsque Dieu veut nous remplir, ça ne rentre pas. Et moi, je peux vous dire à maintes et maintes reprises, tu es le bien-aimé de Dieu. Tu es le bien-aimé de Dieu. Mais des fois, c'est les blessures qui sont là. Parfois, c'est les péchés qui sont là, parce que c'est aussi un fardeau. Vous ne me croyez pas. Ça ne rentre pas. Je me souviens, une fois, j'ai prié pour une femme et j'ai pris les bénédictions. Tu es la fille, tu sais, tu es précieux, Dieu te connaît. Et j'avais lu cette image que ça coulait. Tu sais, je l'ai vu. Ça, tu sais, ça n'a pas rentré dans son cœur. Ça a juste coulé par terre. Alors, je crois que Dieu veut et il peut. On a parlé que le muraille peut tomber. Je crois qu'il peut remplir les trous. Il peut renverser les forteresses, Il peut mettre la vérité dans nos cœurs. Il peut combler nos carences affectives, les blessures avec nos mères, nos pères. Et ensuite, et il tisse nos cœurs. Hein? Il tisse nos cœurs ensemble. Voilà. Hein? Il est l'espérance en Jésus de la restauration, afin qu'on peut contenir son amour, qu'on peut aimer les unes les autres à partir de l'amour qu'on a reçu de lui. Alors, merci Jésus pour ta guérison. Merci pour la restauration et pour l'espoir. Merci. Oups. Oh, voilà. Alors encore, c'est quoi votre motivation pour marcher dans l'intégrité? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que vous avez reçu l'amour? Est-ce que vous donnez l'amour? Parce qu'on a parlé hier aussi, on a lu en Thessaloniciens. Je ne suis pas capable, même après tant, combien d'années, que c'est l'idée de ne pas exploiter les frères et les sœurs. C'est d'aimer les frères et les sœurs. Protéger les cœurs de les frères et les sœurs aussi. Alors, encore, je crois le cœur de Jésus, du Père, c'est quand même de vous appeler. Et c'est ça que j'aimerais vous faire encore, de marcher dans l'intégrité, de marcher dans la purité, et de connaître votre valeur. Ça veut dire pour moi encore, c'est de vraiment vivre la fidélité dans le mariage, hein, de protéger nos enfants aussi, et de vivre l'abstinence avant le mariage lorsqu'on parle de la sexualité. Lorsque je parle de pureté, pour moi, ça veut dire de ne pas mélanger des choses. Hein, pas mélanger. Lorsqu'on pense de pureté, pense de l'eau pure. Hein, c'est pas pollué avec rien, c'est pur. Au-delà, qui est purifié, puis c'est toutes les impuretés, il vient à la surface, puis Dieu, il enlève les impuretés. Enfin, qu'on vienne comme de l'or, hein? Plus précieux que l'or, plus comme lui. Alors, lorsque je parle de l'intégrité, pour moi, c'est l'honnêteté, d'être honnête, hein? D'être ouverte, d'être transparente, d'être la même personne que tu es en privé que tu es en public. Hein? C'est de ne pas donner l'apparence de la santé. Souvent, je demande les personnes, est-ce que tu veux l'apparence de la santé ou la sainteté ou est-ce que tu veux la vraie santé? Est-ce que vous êtes la même personne en public que tu es en privé? Ou est-ce que vous vivez une double vie? Hein? Parce que souvent, beaucoup entre nous, on est divisés. Nos cœurs sont divisés, ils sont partagés. On est un pied ici, un pied là. Et Dieu, je crois, il nous demande d'avoir un cœur sans partage. Et il y a un verset dans les psaumes qui m'a touchée, que j'ai médité. C'est psaume 86:11. Il se dit, « Enseigne-moi, ô Éternel, à suivre les voies que tu traces et me conduiras selon ta vérité. Accorde-moi un cœur qui te revère sans partage. » Sans partage. Et il y a une autre version, ceci dans les français courantes. Seigneur, montre-moi quel chemin je dois suivre. Je veux vivre en te restant fidèle. Mette en moi cette seule préoccupation. Je veux avoir une seule préoccupation. C'est de rester soumis à ton autorité. Et une autre version, c'est lorsqu'on parle de la cœur, ça dit « dispose mon cœur ». Et en anglais, ça dit « donne-moi un cœur non divisé, un « undivided heart ». Et une autre version que j'ai lue en anglais, ça dit « Tisse mon cœur à ton cœur ». Ça m'a parlé beaucoup. Dieu, il tisse son cœur à notre cœur, afin qu'on peut marcher dans l'intégrité. Est-ce que vous voulez avoir un cœur sans partage, un cœur entier pour lui? Je veux juste revenir à… je sais souvent c'est difficile pour nous cette idée de la pureté et l'intégrité. Et bien, surtout la pureté, l'abstinence. En dehors du mariage. Et je me souviens, j'ai regardé un mariage une fois. J'étais dans un parc et j'ai vu, il y avait beaucoup de personnes en train de prendre les photos pour être mariées. Et je dis, Seigneur, pourquoi est-ce que tu nous as demandé d'être fidèles, tu sais, de vivre la fidélité dans le mariage, juste un partenaire pour la vie? Pourquoi la monogamie, juste un partenaire pour la vie? Et la réponse qu'il m'a donnée, c'est que, Catherine, comment est-ce que tu peux être fidèle envers moi, un Dieu qui est invisible? si tu n'es pas capable d'être fidèle envers un homme dans ta vie, une personne dans ta vie. C'est, on peut avoir beaucoup d'idoles dans notre vie, beaucoup de dieux, beaucoup de partenaires. Et Dieu veut qu'on soit ciblé. On adore, on prosterne devant un Dieu, un seul Dieu, et on soit fidèle envers une personne dans notre vie. Alors, un cœur sans partage. Yves a mentionné hier que souvent, excusez-moi, souvent les peuples de Dieu, ils ont prosterné devant l'Éternel, devant Yahweh. Et ils ont construit les autels, on voit ça souvent dans l'Ancien Testament. Ils ont adoré Yahweh, le Dieu éternel, Adonai, et à le même temps, ils ont adoré d'autres dieux. Souvent, ils ont adoré les dieux de Baal et Astarté. Alors, ils n'ont pas laissé Dieu, ou le seul Dieu, ils ont juste ajouté d'autres dieux. Alors, comme ça, on y va à l'église dimanche matin, et on y va ailleurs dimanche soir. Nos cœurs sont divisés. Alors, comme Yves a dit hier, pourquoi toujours Baal et Astarté? Baal est un nom générique pour les dieux, mais aussi, c'était aussi souvent le dieu de fertilité dans beaucoup de cultures. Et il y avait souvent les orgies, les extases, les immoralités sexuelles qui étaient associées avec les cultes envers Astarté et envers Baal. Alors, je pense que Dieu, qu'est-ce qu'il veut, c'est que pas on y va, qu'on a un cœur divisé comme ça. On y va à l'église dimanche matin, puis on couche avec notre chum dimanche soir. Et on vit encore cette vie double. Il y a un verset, je ne sais pas si vous connaissez bien l'histoire d'Élie et avec les prophètes de Baal. C'est une longue histoire, mais c'est juste un verset que j'aimerais lire. Élie, il a rassemblé tous les prophètes de Baal sur Mont Carmel. Je trouve que c'est intéressant. Nous sommes à Villa Carmel aujourd'hui. Alors, je vous convoque, je ne sais pas comme Élie, mais pas du tout. Mais quand même, c'est une invitation, une exhortation. Il a convoqué les prophètes de Baal et tous les peuples d'Israël. Puis, ils ont fait, en tout cas, c'est toute une extravaganza qu'il a fait pour faire les sacrifices. Mais j'aimerais juste vous tirer votre attention à ce verset-là. Alors, Élie s'approcha de tous les peuples. Il dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. » Et le peuple dit, « Qu'est-ce que tu penses qu'ils ont dit? » Le peuple ne lui répondit rien. Ils avaient besoin de réfléchir. Ce n'est pas un choix qu'on fait facilement. On peut, peut-être quelques-uns d'entre vous, vous avez déjà dit « Amen ». « Amen ». J'ai choisi Dieu, j'ai choisi Yahweh. Je ne veux pas aller après Baal. Je ne veux pas aller après Astarté et tous ces autres dieux. Je veux un Dieu dans ma vie. Je ne veux pas autre idole dans ma vie. J'ai choisi de plein cœur parce que j'aime Jésus, parce que je suis en amour avec lui, de le suivre. J'ai compté le prix, j'ai compté le coût et je sais que ça vaut la peine. Et j'ai vu ça dans ma vie. Beaucoup d'entre vous, vous pouvez témoigner que ça vaut la peine, je crois, de choisir Jésus, de choisir Yahweh, de choisir l'Éternel et il va combler vos besoins. Ça, je crois. J'ai dit l'autre jour, videz vos mains des choses, faire confiance à lui, videz vos mains qui vous empêchent de recevoir son amour et sa grâce. Amène ça à la croix. Lui faire confiance. Et je suis certaine qu'il veut vous combler. Il veut remplir vos mains. Mais ça ne va pas être comme immédiatement. Oui, oui, il va commencer de vous remplir, mais je crois qu'il nous remplit tranquillement, doucement, jusqu'en déborde. Alors, les moments, des fois, quand même de tension. Ça fait un peu, tu sais, on est privé des fois de certaines choses qu'on aime et qu'on veut. Mais je crois, au fond, il va vous combler et il va vous bénir. Alors, j'aimerais que vous gardiez cette pensée dans votre tête de Baal et de choisir Yahweh. Mais en même temps, j'aimerais vous laisser, avant qu'on fait un temps de ministère, j'aimerais vous laisser aussi avec une histoire dans le Nouveau Testament qui est la femme, qui est l'histoire de la femme samaritaine. Et c'est sûr, c'était une histoire qui me touche beaucoup parce que ça rejoint à mon histoire, parce qu'on sait que dans cette histoire, cette femme, c'était une femme, je crois, qui a vécu une certaine honte. Je crois qu'elle a été marginalisée. On voit dans cette histoire, c'est en Jean 4, que cette femme est venue à l'appui de Jacob en plein jour. Et on peut poser la question, pourquoi en plein jour? Et d'habitude, les femmes, ils sont allées pour puiser de l'eau pendant la soirée, parce que c'était plus frais. Mais moi, j'ai pensé, d'autres personnes commentaient, ils ont dit, mais peut-être c'est parce qu'elle avait honte. Elle était marginalisée, peut-être elle était ridiculisée parce qu'elle avait cinq maris, et puis elle était avec quelqu'un qui n'était pas son mari. Alors, vous pouvez voir pourquoi je peux identifier. Moi, j'ai eu deux maris avant que je me marie avec Yves. Et une vie brisée, une vie déréglée au niveau sexuel et relationnel. Et on peut voir que cette femme, pour moi, elle avait une dépendance affective. Hein? Il y avait quelque chose qui ne va pas d'aller un homme après l'autre dans sa vie. Mais là, elle est là, toute seule, et elle rencontre Jésus. Et je pense que cette rencontre a vraiment changé sa vie. Et au début, Jésus lui a demandé, « Est-ce que toi, tu peux me donner quelque chose à boire? » Et ensuite, c'est lui qui a offert à cette femme des eaux vives. Oui. C'est lui qui a offert à cette femme sa présence, son amour, sa puissance, surtout sa présence. Puis ça parle dans la parole que lorsqu'on reçoit de cette eau vive, ça va jaillir en nous jusqu'à la vie éternelle. Ça va bénir les autres personnes. Mais une chose qui me touche dans cette histoire, c'est que Jésus a offert cette femme des eaux vives même avant qu'il ait abordé son dérèglement sexuel. Oui. Il a vu son cœur. Il voulait changer sa vie. T'sais? Il voulait l'offrir l'amour. Alors, je pense souvent que c'est comme ça. Jésus, ce n'est pas la première chose. T'sais? Il veut vous parler. Il veut avoir un regard. T'sais? Il veut vous regarder dans les yeux. Il s'approche de vous et dit, « Je veux vous donner les eaux vives. » Et c'est comme ça que je peux avoir la confiance pour remettre mes maris et toutes les autres choses entre tes mains. Et j'ai vu dans cette histoire que Jésus n'a pas traité cette femme comme... il n'a pas paternalisé cette femme. Et après cet échange, ils ont parlé de la vraie louange. C'est un échange théologique. Alors, Jésus avait un respect pour cette femme. Et on a vu combien ça a changé sa vie. Elle avait la honte, puis ensuite, elle a couru, puis elle a dit à tous les villages, « J'ai rencontré un homme et ma vie a changé maintenant. » Alors oui, il nous appelle d'avoir un cœur sans partage. Il vous invite. Vous avez toujours le choix. Hein? Tu peux me choisir. Tu peux choisir les deux. Alors, mais rappelle son cœur pour toi. Hein? C'est un amour. C'est un amour qu'il a pour vous. Et j'espère que c'est ça qui peut vous motiver pour marcher dans l'intégrité et dans la pureté.